With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Pour moi, un des paysages les plus incroyables même du monde, la vallée du Wuling Yuan, le lac Rose Bonbon, le lac Ilié. Je pense là comme ça au canyon de Bozoul. C'est un des plus grands Bouddhas au monde. Le volcan Kawaijen. Dans le cratère de ce volcan, il y a des flammes bleues.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Bienvenue, welcome sur le vol à destination de Tourista. Les chefs de cabine Maximuska et Marie De Breuer, qui ne se sont évidemment pas rencontrés ivre-mort à Phuket, sont à votre entière disposition pour vous faire passer un agréable voyage. Alors attention, PNC aux portes, désarmement des toboggans, et surtout évitez les glaçons dans le jus de tomate. Bon vol.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista. Avec sa voix de toute beauté, il pourrait nous faire voyager rien qu'en récitant l'alphabet. Et pourtant, notre invité ne se repose pas sur son don inné. Que ce soit pour sa chaîne YouTube Axolot ou pour ses livres, Patrick Beau recherche et partage les endroits les plus curieux et insolites qu'il existe sur notre planète, parfois même sur des exoplanètes. Mais avant que Patrick nous emmène dans ses étranges escales préférées et qu'il se présente en anglais, bonjour Marie.
Bonjour.
Comment ça va Marie?
Ça va très bien.
Ça va?
Je suis ravie d'être là.
Bon, très bien. Petit café, tout va bien. Petit
le
bonbon.
Petit café, petit bon bec, comme d'hab.
Et bienvenue Patrick, et merci d'être là Patrick. Comment ça va Patrick?
Ça va très bien, j'ai rarement été aussi bien introduit, je dirais. Donc,
c'est vrai.
Merci beaucoup, vraiment.
J'avais eu la petite pression, je me suis, voilà, j'ai pris la plume, c'était pas mal.
C'était formidable, et je dois préciser, parce que les auditeurs doivent le savoir, que Maxime m'a préparé une salade avant l'émission, ce qui ne m'était jamais arrivé dans un podcast. Donc, ça commence vraiment très très bien.
C'est normal, tu es venu, tu avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui, tu as pris du temps pour nous, on essaie de te mettre bien, c'est normal.
Voyage et cuisine, beaucoup. Quoi.
Déjà, on a un premier exercice, Patrick, parce qu'on aimerait retrouver un peu l'ambiance auberge de jeunesse à l'heure de l'apéro, tu sais, donc petite discussion avec plein de gens qui nous racontent leurs anecdotes de voyage. Donc comment tu fais quand tu te présentes à des étrangers?
Ok, il faut le faire en anglais donc.
Ouais, oui.
D'accord. Ok, so my name is Patrick, everyone, and I'm a YouTuber, a French YouTuber, and I make a lot of videos around the world. You know, and my goal is to try to rediscover big cities of the world through the lens of the curiosity. And so my passion is my work, and I'm very grateful and lucky for this. And I have a lot of stories to tell you.
Oh là là.
Wow. Voilà.
Moi là, si je suis en auberge de jeunesse, j'ai envie qu'il nous parle pendant des heures déjà, c'est sûr. Trop bien.
Même à 8 grammes.
Mais ouais, moi je bois plus, mais bon,
je parle de moi.
C'est vrai, Marie. Très bien, alors est-ce que maintenant tu pourrais nous parler de ton rapport au voyage en général? Tu as le droit de parler en français dorénavant, tout va bien?
Eh bien, ça représente beaucoup de choses. Je pense que c'est sans doute ce qui m'anime le plus, la possibilité de découvrir le monde. Et c'est une grande chance de pouvoir le faire. Et là, depuis quelques années, donc, sur ma chaîne, il y a ce format qui s'appelle Étrange Escale. Et qui est un rêve éveillé en réalité, hein, puisque le principe, c'est de partir à travers le monde pour redécouvrir voilà, les grandes villes sous l'angle un peu méconnu et insolite. Donc en fait, ce que je fais, c'est sans doute ce que je ferais pour le plaisir ou pour la passion si ce n'était pas mon activité professionnelle. Mais là, en plus, j'ai la chance de le faire dans le cadre de mon travail. Donc il y a eu une première saison qu'on a tournée en 2018 à travers la planète. Donc on est allé à Tokyo, on est allé à Montréal, on est allé à Rome. On a tourné, je crois, 7 épisodes au total. Et là, donc cette année, en 2021, donc, on a fait une saison française. Donc cette fois-ci, on est parti à la redécouverte un petit peu du territoire. Donc on a fait Nice, Strasbourg, Nantes, Lyon et Toulouse. Et très franchement, j'ai vraiment découvert mon pays à l'occasion, parce que je me suis aperçu qu'il y avait autant de choses étonnantes finalement en France qu'à l'étranger.
La dernière qui est sortie, c'était à Nice.
C'est Nice, ouais.
Et t'as brisé un mythe, en fait. T'as brisé un mythe parce que à Nice, à midi, il y a un coup du canon que j'entends depuis que j'ai grandi là-bas. Donc à midi, il y a un énorme coup du canon. Et Déjà, tu as eu la chance de le faire, parce que bon, je spoil un peu la vidéo, mais
bien
bon,
sûr,
pas trop. Et vraiment, c'est un truc culte pour moi. Ça, t'entends vraiment un énorme boum à midi, tous les midis, tout le temps. Bon, et moi, à l'école, j'avais un running gag, je faisais exprès de faire semblant de mourir quand il y avait ce boom-là. Voilà, tous mes potes, voilà, c'était ridicule. Mais bref, et donc j'ai découvert
l'envers
du décor. Et bah, en fait, j'aurais préféré ne pas le voir. Quoi. J'étais vraiment hyper déçu, parce que c'est plus vraiment un canon. Quoi.
Déjà, c'est plus vraiment un canon. Et moi, j'avoue que avant d'aller sur place, je pensais qu'il y avait un petit cérémonial, que c'était un endroit un peu pittoresque. Donc, c'est vraiment tiré dans une sorte de terrain vague à côté du cimetière. Et ça, on s'y attendait pas. Et effectivement, c'est plus un canon depuis plusieurs décennies déjà. Et par contre, ça a été l'occasion de rencontrer la personne qui tire ce coup de canon depuis une trentaine d'années maintenant, qui est artificier le reste du temps, il ne fait pas que ça. Mais tous les jours, quoi qu'il arrive, ce monsieur, avec sa fille, maintenant qui va prendre le relais, se retrouve en haut de la colline du château à Nice pour tirer une bombe d'artifice, en fait. Le truc assez imprévu, c'est qu'il me permette de le tirer moi-même. Ça, je pensais pas que ce serait possible. Et donc, il y avait une pression assez énorme. Parce que, quand tu tires ce...
En vrai, j'étais trop jaloux. Voilà.
Bah, je comprends. Je comprends parce que ce coup de canon s'adresse simultanément à toute la ville, tous les Niçois l'entendent, et la vie se règle un petit peu sur ce coup de canon. Les gens savent que c'est l'heure d'aller manger. Et honnêtement, je pensais pas qu'il me proposerait de le faire. Du coup, j'ai jamais eu autant la pression avant d'appuyer sur un bouton dans ma vie. Surtout que c'est une espèce de brique couverte de boutons. C'est une télécommande assez complexe. Donc, il fallait pas se rater.
Ouais.
Ça s'est bien passé. Par contre, on a un preneur de son qui a clairement perdu des décibels, je pense. Hein. Voilà, donc c'était très fort.
Oh là là.
Et c'était un privilège.
Et ben en vrai, voilà, je dis que j'étais un peu déçu, mais j'étais hyper jaloux de voir tout ça. Enfin, bref, c'était génial. Mais avant qu'on continue, on a beaucoup de questions à te poser. Mais avant cela, Marie a préparé un petit quiz comme à l'accoutumée. Et je ne suis pas au courant du thème.
Du thème. Non, mais comme tu es spécialiste des curiosités de l'insolite, je me suis dit, je vais prendre le contre-pied.
Okay.
Vous n'allez rien apprendre dans ce quiz.
Ah, d'accord.
C'est un quiz... de la banalité, du normal.
Ah, trop bien.
Donc, j'ai tenté des trucs, là.
Génial.
Il va falloir être avec moi.
Ok, parfait.
Bon, pour que vous voyez un peu le niveau, première question. Quel est le moyen de transport le plus rapide pour aller de Paris à New York ?
L'avion.
Voilà.
D'accord. Paris,
ça va être, donc. Ça va être de la rapidité.
Ça va être de la rapidité. Non, je vais faire des questions un peu différentes. Petite mise en situation. Vous êtes dans un avion, l'hôtesse vous fait les consignes de sécurité, voilà, le décollage. Et puis, à un moment, turbulence un peu violente. Il y a un problème. Les masques tombent. Que faites-vous ? Petit A, vous paniquez et hurlez « On va mourir, c'est la faute à Macron ». Petit B, vous mettez votre masque comme vous l'a montré l'hôtesse pour ensuite aider vos voisins à mettre les leurs. Petit C, vous ne faites rien. Aucune turbulence ne vous empêchera de regarder A Star is Born sur petit écran. Petit C, vous buvez un jus de tomate.
Ah là, la B, hein. Non, enfin...
Moi, perso, je bois le jus de tomate hein, parce que c'est ce que je préfère faire en avion. Bon, je vais pas mentir. Même si dans un monde idéal, j'aimerais dire B. Mais je peux pas savoir si je réagirai comme il faut.
Depuis le début de cette émission, on essaie de connaître la vérité sur ce jus de tomate. Est-ce que tu aurais la réponse ?
Alors,
oh là là.
Moi, perso, je dois dire que j'adore le jus de tomate même au sol.
D'accord.
Donc ça, c'est
t'en as dans ton frigo ?
Ça, c'est un premier truc. J'en ai assez régulièrement.
Oh là là.
Donc, je fais partie de ces gens qui ne boivent pas de jus de tomate qu'en avion.
D'accord.
Mais j'avais lu que, manifestement, en avion, le goût du jus de tomate
est
plus savoureux. Au sol, je ne sais plus pour quelle raison.
Il y en a une, mais je l'ai oubliée aussi.
Ouais.
On l'a expliqué, non ?
Donc je crois que c'est lié à l'altitude c'est lié à des tas de facteurs comme ça, physico-chimiques. Apparemment, le jus de tomate est plus savoureux dans l'avion, ce qui expliquerait que. Mais moi, je l'aime déjà beaucoup sur le sol, donc je suis un peu hors sujet.
Petite question, un peu ambiance, une famille en or. Est-ce que vous avez la rêve de cette émission ?
Bien sûr, bah quand même.
Voilà, super. Quels sont les objets indispensables en auberge de jeunesse ? Il y a trois réponses. Donc c'est des objets vraiment...
Indispensable en auberge de jeunesse.
Indispensable, mais pas non plus très originaux.
Ok. Brosse à dents.
Non, vraiment auberge.
Auberge.
Pas forcément hôtel ou voyage. C'est dans une auberge de jeunesse.
Un sac de couchage.
Non.
Non.
Un anti mythe. Un anti. Non, un oreiller.
Ah, c'est
un,
pas mal.
qu'est-ce qu'il y a ? Un auberge. Ah oui, des boules qui est. Alors des boules qui est.
Oh,
un masque.
Bravo, bravo.
Un masque. Boules qui est, masque et un savon.
Savon, non. Mais un rapport avec les douches pour le sol.
Ah, des tongs.
Exactement.
Ah, oui, d'accord.
Oh, de verrues. Souvent, on a des sandales pour les petites, les petites verrues. Et il y a un cadenas. Souvent, il faut protéger ses petites affaires personnelles.
Ah, bien sûr.
Il faut embarquer un petit cadenas en auberge de jeunesse.
Ils sont bien. Et sont intéressantes, ces questions. Hein.
Ben oui.
Ouais, non, c'est vrai.
Ah, moi,
c'est
je suis
vrai.
Jamais allé en auberge de jeunesse de ma vie.
Oh là là.
Mais du coup, si ça arrive, je saurai quoi prendre.
Voilà.
Donc, merci.
Alors, j'ai lu un article sur les 19 façons. Ça m'a fait beaucoup rire. 19 façons de passer le temps en avion. Parmi les propositions que je vais vous faire, laquelle n'était pas réellement indiquée ? Première façon de passer le temps, dormir, survivre à son vol, regarder un film, faire de la méditation en pleine conscience, chercher des formes dans les nuages ou boire un jus de tomate.
Donc il y avait une des propositions qui n'était pas vraiment conseillée.
Ouais.
Je dirais survivre a priori.
Eh bien survivre était conseillé.
Mais non.
Et les nuages alors ?
Les nuages étaient conseillés, c'était boire un jus de tomate qui n'était pas conseillé.
Mais c'est fou, d'accord.
Mais il y avait vraiment, ça m'a fait rire, c'est vraiment...
On pouvait
faire un petit somme ou paniquer, essayer de survivre à ce vol.
Eh, on pourrait considérer que survivre fait partie des acquis, mais non, manifestement.
Bah, on contrôle pas, tu sais. C'est toi qui conduis, c'est toi qui pilote.
Je vais parler aux médias qui a écrit cet article.
Moins bien cette question, j'ai pas appris grand-chose. Mais bon, c'est pas grave, il faut...
Super, je suis jugé en direct. Dernière question, encore une mise en situation. Vous avez fini votre séjour à l'hôtel. Vous allez pour payer votre chambre, mais le prix de la nuit a doublé. Que faites-vous ? Petit A, vous payez, de toute façon, vous êtes plein aux as. Petit B, vous faites scandale à la réception, comment ça deux fois plus cher, c'est hors de question. Petit C, vous vous dites que c'est pas bien grave, vous avez pris double ration de petit-déj tous les jours et volé des mini-shampoings de toute façon. Ou petit D, vous buvez un jus de tomate.
Je la sentais arriver, là, je vais pas te mentir.
Il peut y avoir des réponses, enfin vraiment là, c'est plus qu'est-ce que vous feriez, quoi.
Alors attends, il y en avait une qui consistait à ne pas faire d'esclandre, justement.
De pas faire de scandale, ouais, de payer.
Moi, je serais plutôt de ce genre-là. Ouais.
Ok.
Si je peux éviter les dramas, je le fais en général. Ouais.
Ah, j'adore négocier en voyage. Du coup, je tenterai la négo, quoi. Mais voilà.
Ouais.
Voilà.
Ah ouais, t'imagines.
C'est quoi la bonne réponse ?
Bah, il y en a pas.
Super. En fait, c'est juste un truc, les quiz où t'as la personnalité à la fin.
C'est ça.
T'as essayé de faire ça.
Eh bien, vous êtes dans le MBTI, INTJ.
Ok, c'était une belle tentative, Marie. Hein,
bah, j'ai voulu tenter un truc différent. J'espère que personne n'a rien appris.
Très, très bien. Merci pour
Si, en plus, j'ai vraiment appris des trucs sur les auberges de jeunesse. Donc, c'est raté, malheureusement.
C'est mon expertise. T'as jamais fait d'auberge de jeunesse de ta vie. T'as commencé à voyager.
Plutôt sur le tard. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Plutôt sur le
tard. Tes premiers souvenirs de voyage ?
Premier souvenir de voyage qui est hors du coup famille, on est d'accord, et hors voyage scolaire.
Ouais.
Je pense que je devais avoir peut-être 25-26 ans, quelque chose comme ça, avec mon ex sans doute. Je recherchais plutôt le confort, je dois dire, à l'époque déjà. Et c'est pas quelque chose qui m'a quitté. J'aime bien être à l'aise en Très voyage. Bien. Et c'est pour ça que j'ai jamais tenté les auberges de jeunesse. Et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant. À mon avis, c'est plutôt quelque chose qu'on aime bien quand on est plus jeune. Et plus ça va, plus on aime son petit oreiller douillé le soir.
Pas de sac à dos, alors. T'as une petite valise à roulettes, quoi.
Si, les sacs à dos, ça peut arriver. Cela dit, selon les destinations.
Combien de litres ?
Non, pas le genre. Attends, quoi que, si, y a quand même eu des voyages. Je pense à un voyage là qui nécessitait un gros sac à dos. Mais il y avait quand même un confort assez chouette le soir venu. Je vais pas mentir, mais il y avait aussi du sac à dos, donc on était à mi-chemin entre les deux.
Mais c'est vrai qu'avec le temps, moi, c'est pas tant le confort, que j'ai pas tant besoin de confort pour être bien, c'est les autres humains. Genre, j'ai moins besoin de parler avec des gens et de raconter 250 fois « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Il y a eu des moments sur mon dernier voyage où j'étais là « Bah là, je serais bien toute seule, là.
Ouais.
C'est bon. J'ai moins besoin d'autres humains pour voyager. Voilà, je deviens austère.
» Non, mais c'est vrai que c'est très appréciable le soir de se retirer un petit peu dans sa bulle, quoi. Tu vois, tu fais un peu le point, tu te reposes. Voilà, moi, j'aime bien ça, ouais.
Ouais, non, moi, j'aime bien. Enfin, quand je pars en voyage et que je pars tout seul, c'est vachement plus simple de rencontrer, de discuter. Enfin, en tout cas, moi, j'ai plus de facilité à communiquer avec des gens que je connais pas et voilà.
Mais tu vois, c'est intéressant parce que tu parles de voyager seul. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais fait réellement.
Tu réponds aux questions que je te pose avant que je te les pose, pardon, Patrick. Non, c'est génial.
Mais parce que oui, non, je suis en train de le réaliser pendant que tu le dis. En fait, j'ai vraiment commencé à voyager, comme je le disais, avec mon ex-compagne, et donc j'ai jamais eu vraiment l'opportunité de partir tout seul. Ouais. Même si c'est quelque chose que j'aurais bien voulu faire en réalité, je me dis que ça viendra sans doute. Parce que là, j'ai un ami notamment qui est parti seul pendant, je crois, une quinzaine de jours à Jérusalem. Donc, c'était quelque chose qu'il avait en tête depuis des années, parce qu'il a toujours été attiré par cette ville. Et ça m'a vraiment donné envie de faire la même chose. Donc, je suis en train de réfléchir à quel endroit j'aurais envie de découvrir seul. Et j'ai proposé évidemment la même chose à ma compagne en lui disant que si elle avait une envie comme ça de découverte en solo, ben, que c'était tout à fait possible.
Il y a un truc que je vais peut-être faire, c'est avec ma partenaire, on aime bien voyager seul, et d'aller dans le pays, mais partir de chacun d'un endroit et de se retrouver à la fin.
Ah, c'est
génial.
Donc ça peut être cool pour avoir et une expérience solo, et pour après se retrouver et se raconter ce qu'on
génial.
A vécu.
Donc, ça me fait penser à une performance. Vous voyez Marina Abramovic, l'artiste qui fait des performances, elle avait fait ça avec son compagnon de l'époque, ouais. Donc les deux étaient artistes, et donc... Ils faisaient des tas de performances à deux assez spectaculaires. Parfois, ils se mettaient en danger l'un l'autre. Et leur dernière performance avant de se quitter, c'était de partir chacun d'un côté de la muraille de Chine et de se retrouver au milieu. Mmh. Et quand ils se sont retrouvés au milieu, ils se sont séparés. Voilà. Donc, c'est classe.
Okay.
Ouais,
super. Sinon, je prends des notes, je vais faire ça du coup.
Pour les touristos et les touristas qui sont célibataires, bah du coup on peut voyager seul.
sans,
tranquille quoi, y a pas à se mettre d'accord.
En préparant l'émission, j'ai découvert ton site préféré. Il risque de changer ma vie. Est-ce que tu sais lequel c'est ?
Mon site préféré ?
Ouais.
Bon alors si on parle d'un site en rapport avec le thème, je dirais peut-être Atlas Obscura.
Ouais, t'as parlé de ça dans une interview chez Julien Méniel il y a quelques années.
D'accord.
Et tu conseillais ce site et moi je le connaissais pas et je pense que je voyagerais plus sans le consulter quoi. Tu peux nous en parler un peu ?
Ah bah c'est une grande source d'inspiration pour ce que j'ai fait par la suite. En fait l'Atlas Obscura c'est comme son nom l'indique un atlas mais qui se spécialise dans les lieux surprenants, insolites. La difficulté principale quand je fais une étrange escale justement c'est de trouver des lieux qui ne sont pas déjà dans l'Atlas Obscura pour ne pas faire doublon. Donc je vais voir ce qui suggère pour essayer de trouver d'autres choses. Comme c'est un site participatif, c'est extrêmement riche puisque tout le monde peut contribuer, rajouter des entrées. Et donc aujourd'hui, mais vraiment quelle que soit la région du monde qu'on recherche, on est quasiment assuré de trouver comme ça des petites pépites, des petites curiosités. Et c'est vraiment une merveille ce site. Ouais.
Comment ça a commencé les étranges escales ?
Alors les étranges escales, ça a commencé je pense en 2014. À la base, c'était juste un voyage à New York avec ma compagne, donc Elsa. C'était la deuxième fois qu'on allait à New York et je m'étais dit que c'était peut-être l'occasion d'en faire quelque chose de créatif, quitte à être là-bas, autant filmer, autant raconter des choses. Le principe est arrivé assez rapidement puisque c'était une déclinaison en fait de ce que je faisais sur la chaîne, puisque Axolot depuis le début ça parle des curiosités au sens très large et je me suis dit que j'allais me concentrer sur les curiosités de la ville, les choses qu'on ne connaît pas forcément et qui permettent de la redécouvrir sous un autre angle. Et ça a été un bonheur vraiment, ça a totalement transformé notre voyage puisque ça s'est transformé en une espèce de chasse au trésor comme ça. On a découvert des lieux qu'on aurait probablement pas vu si on était allé simplement en touriste, parce que parfois t'as des petites curiosités dans des quartiers qui n'ont pas d'autre intérêt que celle-là. Je pense par exemple à Londres, qui était le deuxième épisode d'ailleurs des étranges escales, au sud de Londres, dans un quartier qui n'a pas vraiment d'intérêt touristique. Il y a un tank abandonné sur un petit carré de pelouse. Et donc ce tank avait été installé là par un homme qui avait petite rancune vis-à-vis du conseil municipal, parce qu'il voulait, il voulait construire. Il avait demandé un permis de construire, on lui avait refusé. Et donc, il avait demandé un autre permis pour installer un réservoir. Donc, un réservoir en anglais, c'est tank. Sauf que c'était un jeu de mots, parce qu'entre-temps, il avait acheté un tank démilitarisé en Pologne. Et il a installé ce tank sur ce terrain vague, au milieu d'un quartier résidentiel de Londres, avec le canon braqué vers les locaux du conseil municipal. Et le tank qui est toujours, donc il s'appelle Stompy, et il est régulièrement repeint par des street artistes.
Il était très coloré, moi, dans la vidéo, il était hyper coloré quand
il... Ouais, il est toujours très très coloré, avec des tas de motifs très différents d'une semaine à l'autre. Et c'est, je pense, à peu près le seul intérêt réellement de ce quartier, ce qui fait qu'on n'y va pas. Et il y a pas mal d'endroits comme ça qu'on n'aurait pas pu voir si c'était pas pour les besoins de la vidéo. Ouais.
Et ouais, alors moi, j'ai vécu à New York. J'ai fait des vidéos, je fais une série. Mes premières vidéos, c'était à New York. Donc j'ai passé 3 mois là-bas, je suis retourné plusieurs fois. Et là, je me suis refait l'étrange escale à New York. Et tous les lieux que tu montes, je ne les connaissais pas. Quoi. Donc vraiment.
Écoute, c'est un bonheur total d'entendre ça.
Non, mais c'est vrai. Hein,
parce que c'est le but. À chaque fois, j'essaie de discuter avec des locaux pour savoir si les lieux que j'ai sélectionnés sont vraiment méconnus ou pas. Et donc à New York, je me rappelle qu'on cherchait la statue de Lénine. Donc parce que voilà, il y a une statue de Lénine de 6 mètres de haut au sommet d'un gratte-ciel à New York, complètement fou parce qu'on est à quelques centaines de mètres de Wall Street et on a voilà un emblème communiste comme ça qui surplombe la ville, ce qui est incroyable. Je me rappelle qu'on était dans le quartier où se trouve la statue, on la trouvait pas, et en demandant à une passante, j'ai découvert que en fait la statue était méconnue, y compris des habitants, parce qu'elle était là depuis 20 ans. Elle avait jamais entendu parler de cette statue. Et voilà. Et donc moi, c'est vraiment une grande fierté quand des habitants me disent c'est fou, j'ai toujours vécu là, je savais pas qu'il y avait ça. Mais c'est vraiment le but.
Bah franchement, bravo. Ça t'arrive de faire des trucs normaux où tu vas un peu plan-plan? Ça t'arrive de faire ce genre de truc où à chaque fois c'est la curiosité qui te guide?
Pour la saison qu'on a tournée à travers le monde en 2018, on partait à chaque fois pour une semaine de tournage. On a très très rarement l'occasion de faire du tourisme en réalité. Et d'ailleurs, on n'en a pas non plus l'énergie, parce que quand on a passé la journée à tourner, on a juste envie de rentrer, de se poser. Donc y a pas mal de villes comme ça dont j'ai pu me dire pendant le tournage que j'y retournerai avec plaisir, justement pour faire du tourisme, quoi, parce qu'on n'a pas l'occasion de le faire. Mais c'est aussi une autre manière de découvrir la ville. Encore une fois, il y a clairement des lieux que je n'irais pas voir si j'étais là simplement en touriste, en partie aussi parce que la caméra ouvre des portes vraiment. Donc dans la saison mondiale, on va dire, l'émission n'était pas connue à l'avance des différentes institutions, forcément. Donc il fallait, par exemple, s'adresser aux musées, aux mairies, en expliquant quel était le projet pour obtenir des autorisations. En France, ça a été l'inverse. En fait, c'est les villes qui sont venues vers moi pour me proposer donc d'aller découvrir des lieux qui normalement sont fermés au public. Ça a été un bonheur total. Une anecdote que je raconte souvent par rapport à cette saison en France, à Strasbourg. Donc partout en France, vraiment, on a eu comme ça des passe-droits assez extraordinaires. Bah, tu vois, à Nice, fait de pouvoir faire péter le canon ou de rentrer dans la tête carrée, cette tête carrée géante dont tous les Niçois se demandent ce qu'il y a à l'intérieur, mais on ne peut pas y rentrer. Ouais. Et là, on n'a plus aller dedans. Donc, je vous laisse découvrir dans la vidéo. Spoiler.
C'est incroyable ce qu'il y a à l'intérieur.
C'est assez ouf.
J'ai vécu à Nice, quand j'ai découvert ce qu'il y a à l'intérieur, c'était...
On va pas se mentir, c'est assez ouf. Et donc,
mais c'est quoi?
Faut que je regarde la vidéo.
Et donc voilà, une des opportunités comme ça les plus incroyables, c'était à Strasbourg qu'on l'a eu. Donc il faut dire que vraiment les gens de Strasbourg ont été particulièrement accueillants. Donc j'ai été contacté par un des responsables de la communication des musées de Strasbourg qui connaissait la série et qui m'a en gros proposé vraiment de venir filmer dans les musées que je voulais. Les portes étaient ouvertes et donc il m'explique que il y a une momie qui n'est pas visible au public, qui est conservée dans les réserves du musée historique de Strasbourg. Donc il me demande si ça m'intéresserait de la voir. Donc je lui dis oui. Et là, donc, on a vécu un vrai grand moment parce que donc, les réserves de ce musée, c'est vraiment le hangar à la fin d'Indiana Jones avec des kilomètres de rayonnage et des grandes caisses en bois sur des étagères dans lesquelles il y a des œuvres d'art, des objets archéologiques et historiques. La directrice nous conduit dans une pièce qui était elle-même remplie d'objets un petit peu de partout. Et là, il y avait une caisse en bois au milieu de la pièce. Elle nous dit, c'est la momie. Ce que je n'avais pas prévu, c'était qu'il fallait l'ouvrir. Non. J'aurais espéré, mais ça ne s'est pas passé. Par contre, donc, elle nous a proposé de l'ouvrir. Ça, je ne m'y attendais pas. Donc, on a ouvert la boîte, on a ouvert le sarcophage. Et là, il y a eu vraiment un moment un peu solennel quand on a ouvert cette boîte. Bon, déjà, il faut savoir que...
Ça sent pas.
Alors non, il n'y avait absolument aucune odeur. Wow. Donc, on a soulevé le couvercle. Et en plus, c'était en matinée et on était avec les contributeurs qui avaient participé au crowdfunding et qui avaient donc pris la contrepartie qui leur permettait de passer une journée avec nous pendant le tournage.
J'allais dire, parce qu'il y en a dans le générique, il y en a je ne sais pas combien, mais il y en a des milliers. J'ai l'impression de regarder le Club Dorothée à la fin de ton générique, tellement il y a une liste de trucs.
Ça, on a eu beaucoup de chance. Il y a eu beaucoup de gens qui ont participé. Et donc, sur chaque ville, il y avait une contrepartie qui permettait de suivre l'équipe comme ça sur une journée.
Excellent.
Et donc voilà, là c'était un jeune couple, donc le garçon a été mis à contribution pour m'aider à ouvrir cette caisse. Là donc voilà, il y a eu un choc parce que moi je m'attendais à voir une vieille momie racornie un peu à l'égyptienne comme on peut se l'imaginer, comme on peut voir au Louvre, et c'était pas du tout ça. Donc c'était le corps embaumé d'une jeune fille du 17e siècle. Donc une jeune fille de bonne famille qui a été embaumée avec des vêtements d'époque, donc une robe à motif avec des fleurs sur la tête et des bracelets, des mocassins. Et cette vision était tellement saisissante et inattendue qu'il y a vraiment eu un temps de silence. Tu vois, on a tous regardé. Et ensuite, donc la directrice nous a expliqué qui était cette jeune fille, pourquoi elle était là. Et elle nous a dit qu'il y a un siècle de ça, la momie était visible dans un sarcophage de verre dans une chapelle de la région de Strasbourg. Et à l'époque, Victor Hugo était venu la voir. Et donc elle m'a donné le texte que Hugo avait écrit sur la momie, et ce qui était fou, c'est que un siècle plus tard, la description était parfaitement exacte. Donc il décrivait à un siècle d'écart ce qu'on avait sous les yeux. Oh. Donc je pense que pour le montage, en voix off, je lirai le texte de Hugo, parce que voilà, c'était assez troublant. Et ce truc-là, cette opportunité-là, c'était un grand privilège, parce que personne ne pourra l'avoir, cette momie, hormis dans la vidéo, du coup. Et quand on est parti, donc... On l'a remise dans sa boîte et elle est retournée à son sommeil éternel parce qu'a priori elle ne sera plus jamais exposée. Donc voilà le genre de
cette chance de, incroyable.
Voilà, de privilège incroyable, ouais, qu'on bravo. A pu avoir sur ce tournage. Ouais.
Tu parlais des livres aussi parce que tu as sorti quelques livres, enfin plusieurs livres où tu nous montres des endroits secrets. Le dernier qui vient de sortir, c'est France secrète, mais il y en a eu d'autres. Lieux secrets, nature secrète, terre secrète. J'aimerais bien que tu nous Si tu peux nous donner un petit lieu à chaque fois qui pourrait nous faire un petit bonbon avant, pour savoir lequel choisir avant
D'ailleurs,
Noël.
D'ailleurs, okay. Je vais m'en prendre un petit bonbon.
Écoute, ouais, je vais essayer de citer un lieu par livre, coup. Parfait. Donc, Terre secrète, c'est le premier de la série. Donc, c'est une série de bouquins qui est publiée chez Juno depuis 2016. Donc, Terre secrète, c'était le premier. Et le principe, c'est un petit peu le même que Les étrangers escales. C'est de braquer le projecteur sur des merveilles méconnues et étonnante du monde. Donc le premier est plutôt orienté géologie, donc c'est les sites naturels. Le second lieu secret, c'est plutôt des merveilles architecturales. Le troisième, nature secrète, c'est des merveilles du vivant. Et le dernier qui vient de sortir, France secrète, évidemment, c'est sur la France. J'ai totalement redécouvert le pays pour les recherches de ce bouquin-là. Et donc, pour citer un lieu de terre secrète, là, il y a deux sites chinois qui me viennent en tête. Honnêtement, j'ai dû me limiter à l'époque sur la quantité de sites chinois, parce que sinon, je pense que ce serait la moitié du bouquin.
Ah ouais.
C'est un pays qui est incroyable sur le plan géologique, vraiment, c'est complètement fou. Et pour moi, un des paysages les plus incroyables même du monde, c'est la vallée du Wuling Yuan, où on a des piliers rocheux géants de plus de 40 mètres couverts de végétation. Et en fait, ce site-là est tellement incroyable qu'il a inspiré notamment James Cameron pour Avatar. Dans Avatar, on voit des îlots qui sont suspendus dans le ciel, des îlots flottants.
Ouais.
Et donc, son inspiration, c'était le Wuling Yuan parce que c'est une zone dans laquelle il y a beaucoup de brume, ce qui fait que le corps des piliers est souvent caché et on voit juste la tête et on a un peu l'impression qu'il flotte dans les airs. Donc, il s'est inspiré de ça pour Avatar. Et la réciproque est vraie aussi, puisque après la sortie du film, il y a un des piliers du parc qui a été renommé Avatar, donc la boucle est bouclée. Donc vraiment, ce site-là, je rêverais de le voir en vrai, parce que les images sont incroyables. Et
c'est possible de le voir en vrai.
Bien sûr, oui, tout à fait. Bah, c'est un parc naturel, mais qui est vraiment hallucinant. J'allais citer un deuxième site chinois, mais c'est absurde, parce qu'il y en a 100 dans le bouquin à travers toute la planète, donc... Je vais essayer d'aller chercher ailleurs. Il y a le lac rose bonbon d'Australie, le lac Illier.
Okay.
Donc il y a un immense lac comme ça qui est vraiment rose, presque fluo. Et la couleur est folle. On a l'impression, en plus, le lac...
Ils ont mis du sel de l'Himalaya dessus.
Ils ont dû en mettre un paquet. En fait, ce lac se trouve sur une île qui est protégée, donc on ne peut pas y aller. Et quand on regarde les photos du dessus, on a un lac rose entouré de forêts vertes dans la mer bleue, donc les couleurs sont folles. Et donc, en plus de ça, le lac est une curiosité biologique et chimique, parce qu'il y a d'autres lacs roses et rouges dans le monde, mais celui-là, sa particularité, c'est que si on prend un verre, par exemple, de l'eau de ce lac, ça reste rose fluo, parce qu'il y aurait un mélange donc à la fois de bactéries, d'algues, et d'éléments chimiques qui créent ce rose unique. Donc voilà, ça fait partie des sites vraiment surprenants.
Il y a des petits poissons à l'intérieur ou impossible de...
Non. Je crois pas qu'il y ait de vie autre que les bactéries qui créent cette couleur. Sur lieu secret, j'ai un autre site chinois qui me vient en tête. Vraiment, il y a beaucoup de choses en Chine. Mais en fait, ce qui me surprend avec ce site, c'est que je pense qu'il devrait être au moins aussi connu que la Statue de la Liberté ou que la Grande Muraille, pour le coup, alors que pas du tout. C'est le grand Bouddha de Leshan, donc c'est un des plus grands Bouddhas au monde. Donc il fait plus de 80 mètres de haut. C'est un Bouddha assis qui a été carrément sculpté dans une montagne. Et ça s'est passé il y a 500 ans, je crois, à peu près, 500-600 ans. Donc en fait, au pied de cette montagne, il y a trois rivières qui se rencontrent. Donc c'est une zone de grand tumulte, on va dire, au niveau du courant. Et à l'époque, Il y a eu cette volonté de créer cette statue pour apaiser les éléments, on va dire, et pour que ce soit plus facile pour les bateaux d'y naviguer. Et donc, ce qui est incroyable, c'est qu'au final, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, la quantité de roches qui a été extraite de la montagne s'est retrouvée dans la rivière et ça a créé une sorte de barrage artificiel. Ce qui fait qu'effectivement, les eaux se sont retrouvées apaisées. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a ce Bouddha assis, monumental, vraiment sculpté dans la roche, dans la montagne. Et voilà, c'est une vision incroyable. Pour en citer un deuxième de lieu secret que j'aime particulièrement, c'est une église qui se trouve... Est-ce que c'est en Colombie ? Oui, c'est une église en Colombie, donc une cathédrale qui a été construite à cheval sur un canyon.
Wow.
Donc déjà, elle est incroyable. On dirait un bâtiment qui sort tout droit du Seigneur des Anneaux. On dirait un bâtiment elfique. Donc une grande cathédrale blanche, donc à cheval sur un canyon, parce que dans ce canyon, la légende dit que un jour, une mère et sa fille essayaient de se protéger de la pluie, de la tempête, en se cachant dans une petite grotte. Et donc la Vierge serait apparue dans cette grotte. Et à partir de cette histoire-là, donc il y a des pèlerinages qui ont commencé à se faire. Et on a bâti en fait la cathédrale autour du lieu où la Vierge serait apparue, ce qui explique cet emplacement improbable. Vraiment, quand on voit les images, il y a un pont qui a été fabriqué pour poser la cathédrale dessus. Et c'est Las Lajas en Colombie, L-A-J-A-S. Donc voilà, en voilà deux, hein, sur 100 dans le bouquin, mais qui m'ont particulièrement marqué.
Il a cité l'alphabet là, je ne sais pas si tu t'en as rendu compte, j'ai voyagé. J'arrête pas de voyager là. Trop bien, t'as pas fini là, il te reste encore de...
Il y a Nature Secrète sur les animaux,
secrète, ouais.
Donc là c'est un peu différent. Du coup, je vais le mettre de côté parce que c'est un peu à part, on n'est pas sur les voyages en Nature Secrète, c'est plutôt les merveilles du vivant, donc des animaux et des plantes avec des formes et des couleurs incroyables. Mais sur France Secrète, on revient donc dans ce principe de redécouvrir un petit peu le lieu du monde. Et là donc, je me suis concentré sur la France dans celui-là et j'ai découvert que vraiment, on ne connaît pas ce pays. Mmh. Et ce qui est drôle, c'est que sur Terre Secrète et Lieu Secret, j'avais mis quelques sites français. Et à l'époque, ça avait été très difficile de les trouver. Des sites qui soient à la fois surprenants, qui soient à la fois beaux et surtout méconnus. C'était difficile. Et je m'étais dit, si un jour je devais faire un livre exclusivement consacré à la France, ce serait très compliqué d'arriver à 100. Et en fait, il fallait juste bosser finalement. Voilà. Et donc voilà, donc je suis arrivé au 100 et vraiment, j'ai redécouvert au passage le pays. Il y a des lieux, je pense là comme ça, au canyon de Bozoul. Je pense que normalement, vous n'avez jamais entendu ce nom.
Non.
Et donc c'est un village qui se trouve entre le centre et le sud de la France donc, et qui a été construit autour d'un canyon, donc en forme de fer à cheval. Donc il faut imaginer une crevasse de 100 mètres de profondeur. Et donc le village a vraiment été construit sur le rebord. Ce qui fait que quand les gens ouvrent leurs portes, ils ont un précipice de 100 mètres sous leur nez. Et même l'église a été construite à proximité du précipice. Donc voilà, c'est des visions irréelles comme ça, qu'on connaît peu.
Quand on parle de ça, j'ai pas l'impression que c'est en France. Ouais, c'est fou.
Des villages comme ça, des communes, dans des cadres exceptionnel, il y en a énormément en France. Je cite souvent aussi le village de Baume-les-Messieurs, dont j'avais déjà parlé d'ailleurs dans un podcast, qui est donc une commune qui se trouve dans ce qu'on appelle une reculée. Donc c'est une forme de canyon, et donc le village est entouré par des grandes falaises comme ça, couvertes de végétation. Quand on voit les images de ce village, il y a aussi un petit côté héroïque fantasy, vraiment. Et pourtant, on le connaît pas. Et la France regorge de lieux comme ça. Donc
j'ai France Secrète et j'ai halluciné de voir tous ces trucs qu'on ne connaît pas en France. Et ça sera sur le sapin de Noël. J'offre ça à ma mère. Je suis sûr que ça va trop marcher.
C'est vrai que c'est un bon cadeau.
Ah non, mais c'est ouf. Elle va faire le tour de France. Elle va tout cocher. Je suis sûr et certain. Elle vient d'arriver à la retraite.
Ah bah, alors,
tous les endroits sont visibles. Il ne faut pas avoir un accès à la Patrick Beau pour pouvoir rentrer partout. Hein.
Écoute. Je dirais que les endroits sont accessibles à 95%. Il y en a quelques-uns qui ne le sont pas. Bon. Notamment le réservoir Montsouris, donc qui est le réservoir principal d'eau douce à Paris. Mmh. Et donc, quand on regarde les photos de ce qu'ils appellent le sanctuaire, donc du lieu où l'eau est stockée, on a vraiment l'impression de voir le temple de l'eau dans Zelda, quoi. C'est incroyable. Et donc ça, évidemment, c'est interdit parce que c'est dangereux. On peut pas laisser les gens aller librement dans le réservoir d'eau douce de Paris. Oui. Donc voilà, à voir, c'est hallucinant. Et donc je me suis efforcé de couvrir tout le territoire vraiment. Donc j'avais une carte Google Maps pour noter un petit peu toutes mes découvertes. Et donc tout le territoire est couvert, donc on peut vraiment faire le tour du pays. Ouais.
Puis surtout, nous, on parle beaucoup de voyages hyper loin, on prend des avions, etc. Mais on prend complètement en compte le fait que voyager en France, ça peut être chambé.
Ah, mais grave.
Je dis ça, je place ça pour les touristos et touristas.
D'ailleurs, ça reste le pays le plus visité. Donc, c'est pas un hasard, quoi.
Ouais.
C'est pas un hasard si les gens viennent ici. C'est parce qu'il y a vraiment des sites extraordinaires et très différents les uns des autres, quoi. Vraiment, selon la région dans laquelle on se trouve, on a des paysages et des merveilles qui sont complètement différentes, et on peut avoir l'impression de voyager à travers le monde en restant en France d'ailleurs. Donc ça, c'est cool.
Oui, j'ai entendu parler du Colorado français il n'y a pas longtemps.
Bien sûr, Colorado provençal.
Colorado provençal, exactement.
Qui est dans le livre.
Ouais.
Donc ouais, c'est à Rustrel, ça, donc dans le Vaucluse. Et ouais, c'est un site qui a été en partie façonné par la main de l'homme, parce que donc il y avait une exploitation d'ocre sur place, et donc les mineurs ont creusé, taillé à la pioche ce site, ce qui fait qu'il y a des formations qui ressemblent un petit peu aux cheminées de fées qu'on peut voir, voilà, justement au Colorado, etc. Puis il y a les couleurs ocre, donc c'est jaune, rouge, orange, et il y a beaucoup de tournages qui se font là-bas parce qu'on a un peu l'impression d'être dans le Far West. Ouais.
Et est-ce que t'as en dehors de pour les bouquins ou pour les vidéos, un voyage qui t'a marqué, mais un voyage qui était...
Ouais, un des plus beaux voyages que j'ai pu faire, c'était en Indonésie. Je pense que c'est d'ailleurs, oui, c'est un des derniers grands voyages que j'ai fait dans le monde d'avant, donc avant la pandémie, voilà. Donc voilà, on est parti encore une fois avec ma compagne pendant une douzaine de jours en Indonésie, à Bali puis à Java. Ma compagne m'avait préparé une petite surprise, donc on a vécu une vraie aventure à Java par rapport à un lieu dont j'avais parlé justement dans Terre Secrète. Donc c'est le volcan Kawaijen, donc qui se trouve à Java et qui est un volcan unique au monde, parce que dans le cratère de ce volcan, il y a des flammes bleues. Mmh. Donc il y a des mines de soufre, et ce soufre crée des flammes bleues. Et donc voilà, j'avais parlé de ce site dans le bouquin, avec le vague rêve un jour peut-être de les voir en vrai, ces flammes bleues. Et donc, elle m'avait préparé cette surprise. Donc, on était à Bali et je crois qu'on a dû faire peut-être 8 heures de minivan, peut-être un peu plus, pour arriver sur place, donc à Java. On a passé, je ne sais pas, peut-être 3-4 heures, un petit peu plus, à escalader le volcan, puis à le descendre pour aller au fond du cratère. Et là, c'était un spectacle absolument incroyable. Donc, on a vraiment ces flammes bleues qui jaillissent du fond du cratère. Et la grande surprise, ça a été le matin. Quand le soleil s'est levé, on s'est aperçu, on a vraiment passé la nuit dans le volcan. Donc je précise que c'est un volcan actif. Donc c'était la première fois de ma vie que je passais la nuit dans un volcan actif. Et quand le jour s'est levé, là en plus, on s'est aperçu qu'il y avait un lac artificiel dans le cratère qui se trouve être le lac le plus acide de la planète. Il a une couleur irréelle. Vraiment, il a une espèce de couleur turquoise pâle très particulière. Et donc quand je dis que c'est le lac le plus acide, ça ne veut pas dire que si on met un pied dedans, la jambe fond. Cela dit, il vaut mieux éviter d'y rester trop longtemps, parce que ça peut décaper assez rapidement quand même.
Et on a une petite verrue ou quoi.
Voilà.
Juste tu mets le bout du doigt, quoi.
Je pense, ouais, tu fais un bon peeling à mon avis. Et donc le fait d'être le matin dans ce cratère, avec ce lac irréel et ces fumerolles de soufre jaune, c'était, je pense, le paysage qui m'a donné le plus l'impression d'être sur une autre planète, vraiment. Oh. Et c'était pas filmé, du coup, c'était un voyage personnel, et c'était un très très beau souvenir, ouais, de voyage.
Je crois qu'on a la prochaine photo pour l'Instagram de Tourista,
exactement. Voilà, le taf est facile pour moi.
On a une petite partie anecdote, un concours d'anecdotes pour les invités. Est-ce que tu aurais quelque chose de fou qui t'est arrivé en voyage, que tu as envie de nous raconter, une grosse loose ou un moment magique où tu surfais sur le kiff de la life?
J'ai une petite loose dans le voyage en question, là, en Indonésie. Et des moments magiques, principalement pendant les tournages des escales, parce que du coup, on provoque les événements forcément. Quoi. Oui. Quasiment à chaque tournage, on a vu des choses qui n'étaient pas prévues. On a eu des surprises qui étaient parfois plus intéressantes, plus étonnantes que ce qui était prévu, justement. Et une des plus grandes surprises, ça a été sur le tournage de l'épisode à San Francisco. Je voulais filmer le bâtiment de l'Internet Archive, donc, qui est ce site qui stocke depuis une vingtaine d'années tous les sites internet. Donc le but, c'est de sauvegarder en fait l'internet. Je savais que le bâtiment était intéressant de l'extérieur parce que c'est le même bâtiment que dans leur logo. Le logo de l'Internet Archive, c'est une espèce de petit temple antique. Et donc le bâtiment est vraiment comme ça. Donc c'est un grand temple blanc avec de grandes colonnes comme ça. Et en fait, c'est un bâtiment qui leur a été donné parce que c'est un organisme à but non lucratif. L'Internet Archive, ils sont financés par des mécènes, par des donations. Et donc ce bâtiment leur a été donné, c'est un ancien bâtiment religieux. Et donc on arrive devant le bâtiment, on le filme et c'est superbe. Et donc je suis très content, mais je me dis, bon, peut-être qu'il y a quelque chose à voir à l'intérieur. Donc j'y vais par acquis de conscience. Et là, donc, il y a une fille à l'accueil qui est surprise de voir des gens parce que ben, il n'y a rien à voir normalement dans l'Internet Archive. Ça se passe sur leur site, ce qui est intéressant. Et donc, je lui demande s'il y a quelque chose à voir peut-être dedans. Et elle appelle un de ses collègues qui nous dit peut-être que je peux vous montrer la salle du dessus, mais voilà, je ne suis pas certain que ça vous intéresse. Donc, on y va. Et là, donc, on se retrouve dans une immense pièce circulaire dans laquelle se tenaient les offices religieux à l'époque où c'était encore un bâtiment religieux. À l'aplomb de cette salle, il y a une grande verrière comme ça, une grande rotonde magnifique, et ils ont remplacé les statues religieuses qu'il y avait dans les alcôves par des serveurs informatiques. Donc c'est vraiment un temple de l'internet, et il y a une estrade avec des gradins qui étaient utilisés à l'époque, encore une fois, où il y avait des offices religieux qu'ils ont gardé pour y faire des conférences, etc. Et surtout, sur les côtés de la salle, il y a plus d'une centaine de statues d'environ 1m40, 1m50, hallucinantes, donc comme une espèce de grande installation artistique. Et j'hallucine de voir ces statues-là, qui sont des statues vêtues d'habits contemporains. Donc c'est pas des statues à l'ancienne, donc c'est des gens avec des habits du quotidien et des objets du quotidien, des téléphones, des bouquins. Et avec un style un peu naïf, genre pas loin du nain de jardin, mais pas trop non plus. Et là, donc, je demande au mec qui nous a conduit dans cette salle de quoi il s'agit exactement. Et le gars nous dit, ah oui, bah c'est parce qu'en fait, tous les employés de l'Internet Archive, au bout de 3 ans d'ancienneté, ont une statue à leur effigie dans la salle, quoi. Et la lue complète. Et pour le mec, c'était tellement le quotidien qu'il s'était même plus aperçu que c'était fou. Et donc je lui demande, mais vous, elle est où votre statue? Il me dit, ah, moi, ça fait 2 ans que j'y suis. Donc j'attends vraiment l'année prochaine avec impatience. Et voilà, ça a été une surprise complète. Et une autre, pour les moments magiques, j'en cite juste une autre, qui était très jolie et qui a été du coup capturée en image. C'était à Tokyo. Donc on était dans un quartier universitaire dans lequel on peut voir un bâtiment qui est un des plus étranges de Tokyo. Donc c'est un immeuble qui a été conçu par un architecte légendaire au Japon qui s'appelle Vonjurko. Et c'est un pseudo, ça s'écrit un peu à l'européenne, c'est V-O-N, jour comme un jour, et Ko, C-A-U-X, donc c'est un pseudo. Et il est souvent comparé à Gaudi, donc l'architecte de la Sagrada Familia à Barcelone. Avec ses formes très organiques comme ça, très, très extraterrestres un peu. Et donc voilà, il a créé cet immeuble dont j'ai oublié le nom là tout de suite, mais qui est vraiment très surprenant. On dirait une espèce de pièce montée géante au milieu du quartier, avec des tas de détails bizarres, des petites sculptures collées au mur. Et quand on rentre dans le hall, au plafond, il y a comme des stalactites. Donc on a l'impression d'être dans une grotte. Et au fond du hall, il y a une espèce de vision un peu surréaliste avec une main géante en bois qui descend du plafond, qui touche le sol. Enfin, on a un bon impression d'être dans un tableau de Dali, on va dire. Et c'est un immeuble d'habitation. En plus, c'est pas un musée ou quoi. Donc voilà, on était en train de filmer. Et donc ce Vonjurko, moi, tout ce que j'en savais, c'est que voilà, c'était encore une fois un architecte légendaire au Japon et que c'était un très vieux monsieur. Mais voilà, je m'étais pas posé plus de questions sur l'architecte. C'était plutôt le lieu qui m'intéressait. Et là, je vois quelqu'un sonnait donc à un des interphones pendant qu'on est en train de tourner, et quelques minutes plus tard, il y a donc un très vieux monsieur qui descend, et c'était le mec, quoi.
La chance, donc, non, c'est pas possible.
Il était encore vivant, donc c'était la première surprise. Il a plus de 80 ans. Et donc la personne qui était venue sonner, c'était pour le prévenir qu'il y avait une équipe là, française, en tout cas européenne, qui était en train de tourner. Et donc, il descend et il commence à discuter avec nous en anglais pour nous parler de son œuvre et pour répondre aux questions. Et c'était vraiment un moment magique. Je pense que c'était un peu l'équivalent de rencontrer Miyazaki si tu te promènes dans le musée Ghibli, quoi.
Mmh. Ouais, mais ça, c'est filmé. Hein. Moi, je l'ai vu,
ce texte.
Ah oui, ça... C'était fou. Je me disais, c'est pas possible. Comment il peut croiser l'architecte?
C'est super,
C'était incroyable. Et alors, une petite loose aussi.
Alors, la petite loose... C'était à la fin de ce voyage-là en Indonésie. Je savais qu'il fallait surtout pas la carte de crédit de ma compagne pendant ce séjour-là, parce que ma propre carte de crédit expirait par un hasard fâcheux en cours de séjour.
Bah, bravo l'orga.
Donc, voilà, donc c'est mal tombé. C'est mal tombé. En fait, j'ai pas pu récupérer ma nouvelle carte de crédit à temps. Donc je suis parti avec cette épée de Damoclès en tête, en sachant que voilà, à peu près au milieu du séjour, ma carte ne passerait plus. Donc il fallait surtout pas que la sienne déconne, et évidemment encore moins qu'on la perde. Ce que j'avais même pas envisagé en fait. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc c'était l'avant-dernier jour. On est dans notre avant-dernier hôtel, puisqu'on s'est baladé un petit peu comme ça à travers le pays. Et donc on changeait quasiment tous les jours, enfin tous les 2-3 jours d'hôtel. On est dans l'avant-dernier hôtel, et là on s'aperçoit qu'on n'a plus de carte. Et on cherche de partout, on retourne vraiment la chambre. On appelle le guide qui nous avait conduit en voiture un peu à travers toute l'île, avec qui on avait sympathisé. On lui demande s'il n'y aurait pas la carte perdue quelque part dans la voiture. Donc il cherche de partout, il ne trouve pas. Et là je me dis ok, donc là on a vraiment un problème, parce que ben, y a encore un hôtel là à régler. Et puis ensuite ben, il faut retourner à l'aéroport, ouais, et puis il faut rentrer. Et là on n'a plus rien du tout. Donc je sais pas comment faire, et je me dis ok, la seule solution c'est de demander à un pote de me faire un virement Western Union.
Western Union, sauf le dimanche, parce que le dimanche est fermé.
Donc voilà, donc j'avais jamais eu affaire à Western Union, sauf une fois où je m'étais fait arnaquer par Western Union.
Ouais.
Donc ça c'est une autre anecdote. Et donc j'y avais jamais eu affaire personnellement. Donc j'appelle un pote et je lui explique la situation. Je lui dis écoute voilà, non en fait je l'appelle pas, je lui ai envoyé un message parce que je pouvais pas appeler. J'avais pas le forfait qu'il fallait pour téléphoner en France, donc je lui envoie un message par Facebook en lui disant écoute voilà, je sais que ça va clairement sonner comme une arnaque en ligne, mais on m'a pas volé mon compte, c'est vraiment moi, pose-moi une question intime si tu veux, mais j'ai vraiment besoin que tu me vires.
Claire, tu peux tellement douter de la vérité. Oui, on voit pas de l'argent.
C'est le message que tu reçois dans les arnaques: je suis bloqué dans ce pays, j'ai besoin que tu m'envoies 300 €.
Exactement ça.
Donc je dis à mon pote écoute, j'ai vraiment conscience de la forme de ce message, vraiment pose-moi une question intime. Il le fait, je réponds, donc il me dit ok, je sais que c'est toi, et je dis voilà, j'ai besoin de ce virement, donc je regarde comment ça marche, puisque je l'avais jamais fait. Et donc on se rend à l'hôtel suivant, qui était donc le dernier hôtel dans lequel on restait, et là j'explique la situation au réceptionniste. Je dis voilà, il faudrait demain qu'on m'emmène dans un truc Western Union pour que je récupère de l'argent, parce que sinon voilà, je pourrais pas vous régler, on pourra pas partir, enfin c'est compliqué. Donc ils étaient extrêmement gentils, et donc le lendemain il y a un des chauffeurs de l'hôtel qui me conduit dans le spot Western Union que je trouve en fait en cherchant comme ça à Bali, à l'endroit où on était. Il y avait un spot qui était, je sais pas, peut-être à une demi-heure quoi, tu vois, de route. Donc on y va, et puis en arrivant sur place, on s'aperçoit que le spot Western Union qui était mentionné sur Google Maps n'existe pas.
Oh là là.
Il y en a pas. Et je me dis waouh, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tous les spots qui sont indiqués n'existent pas non plus? Donc on commence à aller à un deuxième spot, il n'y a rien du tout. Et je commence à me dire qu'on va rester coincé là, quoi, s'il n'y a même pas moyen de récupérer de l'argent de cette manière-là. Et puis on finit par arriver, donc, c'était une poste, je crois, qui faisait le service, Western Union. Donc je suis soulagé, je me dis, ok, il y a peut-être moyen là de discuter. Et là, la personne qui m'accueille m'explique que je peux pas récupérer l'argent parce que la personne qui a fait le virement, donc mon pote, mon bon Gilou d'ailleurs, je le salue, merci mon bon Gilou, mon pote a fait le virement à Patrick Beau, et dans mes papiers d'identité, tu vois, il y a tous mes prénoms, quoi.
Oh, putain.
Et elle m'explique, en plus dans un anglais approximatif, donc c'est chaud. Elle explique que c'est pas possible, voilà, il faut. Et je lui dis mais qu'est-ce qu'on peut faire? Elle me dit alors il faut contacter votre ami et il faut qu'il refasse le virement avec les bons noms. Sauf que à ce moment-là, en France, c'était 3h du matin.
Ben oui.
Et je lui explique, je dis mais je peux pas l'appeler, je peux pas le réveiller en pleine nuit pour machin. Et puis en plus de ça, je pouvais pas l'appeler. Donc du coup, je pouvais juste envoyer des messages. Et bon, évidemment qu'à cette heure-là, tu réponds pas au message. Donc là, je suis vraiment, vraiment coincé. Et je pense que elle a dû le voir dans mon regard, quoi, que ce serait très compliqué si elle me permettait pas de récupérer cet argent. Donc elle voit que je suis un peu désemparé. Et elle sort de la pièce, elle va voir son boss. Et donc elle discute avec lui un quart d'heure, tu vois, et je me dis, ok, là vraiment, la suite des opérations se joue là.
Oh la pression, je suis en stress.
Et elle revient, et elle me dit, bon, c'est d'accord, on va vous donner l'argent. Donc là, j'ai pu rentrer à l'hôtel, on a pu regagner l'aéroport, repartir, mais si ça n'avait pas eu lieu, je ne sais pas comment on aurait fait, parce qu'on aurait dû rester à Bali sans pouvoir payer d'hôtel, en fait, en attendant que le bon Gilou puisse refaire le truc. Mais du coup, il aurait fallu ensuite se rendre à nouveau dans un truc Western Union, donc payer un taxi sans argent. Voilà, donc ça a été une jolie galère, mais qui s'est bien terminée.
Je pense que je chiale directement au Western Union. Vraiment, on me dit, c'est pas possible. Ça m'est arrivé, une galère de thunes qui était beaucoup plus court dans le temps, mais je passe au Mexique et je sais pas pourquoi ma carte bleue elle a marché nulle part dans le pays, donc après je retrouve une copine, donc c'est elle qui m'a avancé des thunes, mais je me retrouve ma carte elle veut pas retirer. Bon, sauf que on traverse la frontière de nuit et je sais pas pourquoi il y a un truc à payer à un moment pour la compagnie de bus, enfin je savais pas qu'il fallait payer un truc. J'essaie de payer par carte directement sur le TPE, ça marche pas. Ils me disent, vous pouvez retirer quelque part, ça marche pas. Donc là, je suis dans un bus, il fait nuit, je connais personne. On me dit que si je paye pas, je peux pas reprendre le bus. Et pour te décrire le truc, c'est une route avec rien, à part genre une petite mamie qui a un thé comme ça, sur un banc, il est 4h du mat.
Pas tirer des sous.
Il y a juste la mini-agence où on me dit qu'il faut payer. Là, je suis en mode, ils me disent, ah bah du coup, qu'est-ce que vous faites? Bah je sais pas, frère, je suis sur une frontière que je connais pas. Il y a pas de ville, il y a rien. Genre vraiment, c'est une route avec rien. Vous allez pas me laisser là? C'est absurde, quoi. Et je me mets évidemment à chialer. S'il vous plaît. Et je vais dans le bus et vraiment, il y a tout le monde en face de moi avec des mini lumières de tu sais, il fait nuit. I don't have money, nanan et tout. Personne ne parle. Genre vraiment, il y a personne qui a de la pitié pour moi.
Non.
Vraiment.
Putain, je pensais que t'allais avoir trop de sous là.
Ouais, je me dis putain, mais ça va. Puis c'était pas non plus une somme astronomique, c'était genre 30 balles, tu vois.
Putain.
Et je fais, non, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, il y en a bien un. Et il y avait une meuf qui voyageait toute seule aussi qui m'a dit, tiens, vas-y, je t'avance, pas de galère et tout. Et je lui dis, mais dès qu'on se rembourse. Et voilà, elle m'a un peu sauvé la mise sur ce moment-là. Et j'étais là, mais. Ouais. Bande d'enfoirés, ouais. il y avait des gens, enfin j'avais 20 piges, il y avait des gens de 40 ans, j'étais là, mais vous avez pas de pitié ou quoi?
Abusé, moi j'ai une souvenir de carte bleue, mais d'ailleurs c'était le voyage
en Thaïlande.
Où on était ensemble.
Oui.
En fait, j'étais à Phuket, je devais rejoindre Marie à Koh Phi Phi, donc je devais prendre un bateau pour rejoindre une île. Je suis dans mon auberge de jeunesse, je me réveille le matin. Je vois ma petite carte pour aller de l'hôtel, mais normalement à côté il y a ma petite carte bleue. Je suis putain, mais il n'y a pas ma carte bleue et tout. Et vraiment, je devais partir 2 heures après. Il y avait un bateau qu'il fallait que je paye. Il fallait que je paye l'hôtel. Et c'était dimanche. Donc Western Union, c'est la vraie soluce quand t'as plus de sous et tout. Et donc, sauf que là, c'était dimanche et c'est fermé le dimanche Western Union. Donc là, je suis vraiment dans une panique. J'ai aucune solution. Je peux pas payer l'hôtel.
Je
peux
moi,
pas
m'acheter. Déjà parti.
Et toi, t'es déjà parti. Ouais. Et voilà. Donc là, je suis en mode wow, panique. Je me dis, où est-ce que je l'ai perdu? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vais dans le bar où j'étais hier. Je dis, mais non, c'est pas possible, parce qu'après le bar, j'ai tiré des sous. Je vais là à l'endroit où j'ai tiré des sous, mais je me dis, je sais pas quoi faire. Je pars en courant parce qu'il y a le temps presse, parce qu'il y a mon bateau que j'avais. Je crois le bateau, je l'avais déjà un peu payé ou quoi, mais bref. Donc j'étais pris par le temps du bateau. J'arrive au TPE, et là, je regarde à côté, il n'y a rien et tout, machin. Je suis en panique. Il y a un 7-Eleven juste à côté, donc un petit magasin. Je rentre dedans, je rentre dans le magasin, et je dis, voilà, j'ai perdu ma carte bleue et tout, machin. Et là, il y a un monsieur. Il me fait, ah, ok, pas de problème et tout. Il va dans un tiroir, il ouvre le tiroir. Et là, il sort 6 cartes bleues. Et là, je suis putain soulagé. Je regarde les cartes bleues. Il n'y a pas la mienne. J'étais dégoûté. J'étais horrible. J'étais là, putain. Et donc là, je suis en panique. Je dis, ah non, si c'est pas là, c'est pas là et tout, machin et tout. Donc, je sais pas quoi faire. Là, j'ai plus de solution. Et il y a un de ses collègues qui arrive vraiment par hasard, qui traverse la rue. Il demande ce qui se passe et tout, machin. Donc, je lui demande, j'ai perdu ma carte bleue et tout. Et il fait, ah. Et en fait, il y avait un deuxième comptoir. Il va voir dans son tiroir à lui. Il y a encore 4 cartes bleues et là, roulement de tambour, bam, il y avait ma carte bleue.
Oh, oui.
Et là, j'étais. Oh. Et la chance, j'étais. Et là, t'es à l'adrénaline, tu dis putain, je suis sauvé.
C'est clair.
T'étais en panique totale, je savais pas quoi. Voilà, donc, faites attention, les amis. Déjà, Western Union, c'est quoi? Ouais, les conseils, mettez bien les prénoms.
Oui, mettez tous les prénoms, vraiment. Ah oui, oui.
Hein, le bon Gilou, hein, la prochaine fois, tous les prénoms. T'aurais une autre anecdote un peu folle à nous raconter?
Alors, au Chili.
Au Chili. Ah ouais, le Chili.
Au Chili. On est allé au Chili pour une vidéo qui s'appelle Chasseurs de Monde, et qui est une vidéo consacrée aux exoplanètes. Et donc, on est allé au Chili pour filmer les plus grands observatoires du monde, parce que c'est là-bas qu'ils se trouvent, dans la région d'Atacama. Donc, c'est dans le nord, et c'est une des régions, voire la région la plus aride de la planète, le désert d'Atacama. C'est ce qui ressemble le plus à Mars sur Terre. Donc c'est un désert rouge qui est complètement dénué de vie. D'ailleurs, la NASA fait tourner ses rovers, ses robots, dans le désert d'Atacama avant de les envoyer sur Mars, parce que vraiment, c'est ce qui se rapproche le plus de Mars sur Terre.
Trop fou.
Et donc, il se trouve que dans le désert d'Atacama, au milieu du désert, il y a un des plus grands observatoires du monde, avec un télescope qui s'appelle le VLT, donc le Very Large Telescope, qui est constitué de 4 télescopes distincts qui peuvent fusionner leur pouvoir, on va dire, pour devenir un méga télescope. Et avant d'y arriver, il faut rouler longtemps dans le désert d'Atacama. Donc tu roules vraiment au milieu de nulle part pendant très longtemps dans cet endroit extrêmement aride et martien. Et puis tout à coup, donc, tu te retrouves devant un grand complexe scientifique qui est constitué des 4 télescopes et d'une sorte d'hôtel, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'appellent là-bas, dans lequel vivent les techniciens, les scientifiques, les chercheurs. Et pour faire venir les astronomes du monde entier dans cet endroit-là, qui est un des endroits les plus isolés, les plus arides de la planète, il faut mettre les moyens. Donc, ils ont vraiment construit un lieu hallucinant qui est semi-enterré. Donc, à l'extérieur, tu as une espèce de dôme qui jaillit du sol. Et donc, il faut emprunter un tunnel pour rentrer dans le complexe. Et là, tu as un endroit qui ressemble vraiment à une base de méchants de James Bond,
wow.
Avec des jardins tropicaux, une piscine. Et donc, c'est ce qu'ils appellent l'hôtel, parce que tu as vraiment des chambres comme ça, il y a une centaine de chambres. Donc on a pu y passer une nuit. Et pour la petite anecdote supplémentaire, ils ont vraiment tourné un James Bond là-bas. Donc c'était Quantum of Solace. Okay. Ce qui fait qu'à l'entrée du site, t'as deux rochers énormes qui sont en carton en fait. Donc tu peux les pousser.
C'est de la déco.
Et voilà, c'est de la déco qu'ils ont gardée par la suite après le tournage. Et donc l'anecdote que j'ai par rapport à cet endroit, c'est que le soir où on arrive... ça devait être, je sais pas moi, peut-être 22-23 heures. J'étais dans le grand hall d'entrée, immense, et j'étais en train d'halluciner en fait sur l'endroit où on était. Je me disais, ok, on est au cœur du désert le plus aride du monde, dans ce complexe hallucinant qui ressemble à un hôtel de luxe, alors que c'est un complexe scientifique. Et voilà, et j'hallucine sur le lieu, et puis tout à coup, je vois une jeune fille qui arrive au détour d'un couloir et qui vient vers moi en me souriant. Je lui dis, mais. Qui est cette personne?
Il est assez doux de James Bond.
Je me dis, qui est cette personne qui semble me connaître? Et elle arrive, elle me dit, vous êtes Patrick d'Axolot?
Incroyable.
Et je dis, waouh, je dis vraiment, s'il y a un endroit au monde où j'aurais pas imaginé que quelqu'un me reconnaisse par rapport à ça. Et il se trouve que donc, cette fille était en stage, donc elle faisait des études, elle, d'astrophysique, et elle était en stage au Chili, dans cet observatoire, à ce moment précis. Et il se trouve que, voilà, elle suit beaucoup de chaînes YouTube, dont Axolot, et c'est vraiment l'endroit le plus fou dans lequel on met... reconnu dans le monde.
Ouais, et donc, jamais tranquille. C'était
vraiment fou. Et ensuite, donc, elle m'a expliqué qu'elle-même avait envie de se lancer comme ça dans la vidéo. Et il y a peu de temps, elle m'a envoyé sa première vidéo, donc, du coup, parce qu'elle a lancé sa chaîne. Et malheureusement, pour que cette anecdote soit parfaite, il faudrait que je me souvienne du nom de sa chaîne. Ce n'est pas le cas, mais peut-être que, en description,
vous
pourrez la rajouter.
Tu nous l'enverras, voilà.
Mais ouais, ça, c'était un moment assez surréaliste.
Waouh!
Ouais, c'est vrai que c'est fou.
Ah non.
Toi, tu t'es fait reconnaître en Thaïlande par Marie de Breuer.
C'est vrai, et ça... depuis, ça a créé la plus belle des amitiés.
Ouais, alors.
Et un podcast.
Patrick, il s'en souvient pas.
Waouh, incroyable anecdote. Mais c'est fou tout ce qui t'arrive, Patrick. J'ai jamais vécu des trucs comme ça, moi.
Je suis
jamais allé dans des endroits aussi incroyables. T'arrives que des trucs incroyables.
Gros passe-droit. Mais attends, il faut préciser que ça aide beaucoup pour pouvoir pénétrer dans ce genre d'observatoire d'être avec la personne qui a découvert la première exoplanète.
Allez.
Donc on était avec Michel Mayor qui, entre-temps, est devenu prix Nobel de physique. Il a eu reçu le prix Nobel 25 ans après sa découverte. Donc il a découvert la première exoplanète, c'était en 94-95. Et il se trouve que donc il a reçu le prix Nobel l'année où on a sorti la vidéo. Donc ça, c'était fou. Il a reçu le prix Nobel 2 mois après la sortie de la vidéo. Et donc, du coup, on avait l'impression de le recevoir, nous. Mmh. Et on était très, très heureux. Et donc, Michel Mayor est une légende vivante. dans tous les observatoires du monde entier. Donc c'est un monsieur qui doit avoir 80 ans maintenant, mais qui a une énergie incroyable, qui est un puits de science. Et donc, quand je dis que c'est une légende, j'exagère pas. C'est-à-dire que dans les observatoires au Chili, on a fait 3 observatoires au Chili, les gens quittaient leur poste pour venir prendre des photos avec lui. Et donc, quand tu es avec ce monsieur-là, toutes les portes s'ouvrent dans les observatoires. Et donc ça, je précise bien sûr que l'observatoire de Paranal, donc, il est totalement fermé au public. Ah oui, c'est pas un endroit qu'on visite du tout, du tout, du tout.
Un petit conseil de Patrick Beau, allez visiter le Paranal dans le
Mais donc non, celui-là, on peut pas, voilà. On peut pas y aller. Bon. Mais là, forcément, avec ce monsieur, les portes s'ouvrent.
On traîne pas assez avec des prix Nobel, Marie. Faudrait
c'est
qu'on...
ça. J'avoue. Mais sinon, peut-être qu'on peut... Je peux peut-être tenter, moi, d'en choper un. Ouais. Un petit prix Nobel, je sais pas, d'ici 2-3 ans.
Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a voyagé, plein d'émotions encore. Plein d'émotions. Voilà, bon là, on arrive à la fin de l'épisode, mais avant ça, on aimerait savoir si tu as encore des choses que tu n'as pas fait. Est-ce que tu as une bucket list avec des trucs que tu rêves de faire
tellement.
Que tu n'as pas encore fait, voilà.
Tellement.
Tu peux nous en dire un ou deux.
Déjà, vraiment, comme je disais tout à l'heure, la Chine, c'est un pays incroyable que j'aurais vraiment envie de découvrir, mais forcément, c'est plus compliqué d'aller en Chine que dans d'autres pays. Donc je sais pas si je le ferai un jour ou pas, mais en tout cas c'est vraiment une envie que j'ai.
C'est plus simple maintenant de voyager en Chine que non, je sais pas, je commence à avoir quelques amis qui
c'est une idée que je me fais, je sais pas.
Ouais, non je crois que on peut traverser la on peut vraiment voyager en Chine, ouais. Je crois c'est
En tout cas ouais, ça c'est vraiment un rêve et j'ai vraiment moi une passion totale pour les États-Unis. J'adore les États-Unis et on avait fait la côte ouest. Ça avait été un voyage extraordinaire. J'aimerais bien visiter davantage d'États. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire vraiment.
Trop bien.
Le truc, c'est qu'il y a tellement de sites extraordinaires que j'ai pu découvrir justement au fil de mes recherches qu'il n'y aurait sans doute pas assez d'une vie pour tous les faire. Donc, il faut choisir, il faut trier. Mais en fait, quand on se concentre sur n'importe quelle partie du monde, on finit toujours par s'apercevoir qu'il y a des tas de merveilles, souvent méconnues, qui sont sans comparaison dans le monde, des tas d'archipels, d'îles hallucinantes. Par exemple, un pays qui ne cesse de me surprendre et dont on parle jamais, pour cet aspect-là, c'est l'Iran, par exemple.
Ouais. Ah, mais
quand on parle de l'Iran, c'est toujours par rapport à la géopolitique, mais jamais par rapport à la géologie ou à la beauté des paysages. Et il y a des sites incroyables en Iran. Et donc, il y a une île, notamment, que j'ai découvert très, très récemment, qui est une île qui ressemble vraiment à une autre planète, avec des couleurs incroyables, des formations géologiques hallucinantes. Il y a une île aussi au large du Yémen, l'île de Socotra, qui là aussi est très très difficile à visiter pour le coup pour des raisons géopolitiques, oui. Mais qui donne l'impression d'avoir voyagé dans un autre monde, parce qu'on a des arbres notamment endémiques qui ne poussent que là-bas avec des formes hallucinantes, donc une végétation qui n'existe que là-bas parce que l'île s'est développée séparément du reste du continent. Donc il y a tellement de choses à faire que c'est très très difficile de choisir. Et en plus, là avec France Secrète, j'avoue que j'ai vraiment envie de me concentrer là-dessus et de découvrir mon propre pays avant d'aller ailleurs peut-être. D'autant que, à mon avis, ça risque d'être un peu plus compliqué qu'avant, pendant encore longtemps, de voyager en dehors de la France. Donc là, je pense, en plus avec un enfant en bas âge, merci. C'est plus compliqué aussi qu'avant de partir loin. Donc là, j'avoue qu'on a prévu d'aller faire un petit tour de la bucket list qu'est ce bouquin finalement.
Oui. Bah, tu croiseras peut-être ma maman, parce que je suis sûr elle va y aller aussi, hein. Quand elle aura le cadeau, j'espère qu'elle écoute pas Tourista, parce que vraiment c'est vraiment son cadeau de Noël, hein.
Mais... Alors, en France, tu vois, pour en citer un lieu que j'aimerais bien aller voir, il y a beaucoup de lieux en Bretagne qui sont assez fous. Il y a un site qui s'appelle le Chaos de Huelgot. Donc il faut imaginer une espèce de forêt bretonne enchantée. Et au milieu de la forêt, tu as une espèce de fleuve de rochers géants qui sont des rochers magmatiques qui sont remontés du sous-sol pendant des millions d'années et qui sont arrivés à la surface complètement polis comme ça et qui sont immenses. Donc c'est des blocs vraiment gigantesques. Donc il faut imaginer une espèce de fleuve comme ça de rochers qui est donc évidemment auréolé de légendes et de mystères et d'histoires incroyables. Donc toute cette région-là, c'est une région que je connais trop peu et que j'aimerais vraiment découvrir. Il y a l'archipel des Glénans aussi, toujours en Bretagne. Donc s'il y a des Bretons qui m'écoutent, ça va leur faire plaisir. Mais les Glénans, vu du ciel, on dirait les Caraïbes. On dirait vraiment les Caraïbes. Oui. Il y a une mer bleue qui ressemble à un lagon tropical, sauf que c'est en Bretagne. Donc voilà, je pense que les prochains voyages pour moi devraient plutôt se concentrer dans cette zone. Ouais.
Trop bien.
On a hâte que tu viennes nous raconter ça quand tu auras fait toutes ces petites aventures. Merci infiniment, Patrick, pour ce voyage encore incroyable qu'on a fait avec toi. Merci beaucoup pour toutes tes aventures. Merci, Marie. Ce quiz incroyable, quiz personnalité, ce coup-ci, petites infos et tout. Merci aux touristos, aux touristas de vous abonner au compte Instagram qui grossit. Je crois qu'on arrive aux 2000 là bientôt.
Oui.
C'est trop cool. Merci beaucoup.
Allez.
On vous met des petits bonus et tout sur le compte. Les petits commentaires 5 étoiles qui nous aident beaucoup sur Apple Podcast. Merci infiniment. Vous nous mettez des petits messages dans les listes. Ça nous touche beaucoup. Ça nous fait grossir. C'est trop sympa.
Et on vous voit aussi dans des. Parfois, on nous rencontre et on dit hey, coucou, tourista. Parce que il y a quelqu'un qui m'a arrêté il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours en disant ah, j'adore Tourista. Ça aussi, ça fait plaisir.
Ouais, putain, moi aussi, on m'a hurlé. C'était quoi déjà? C'était. Ouais,
vive Tourista!
Ouais, un truc comme ça, j'ai eu peur. le bébé grossit, ça fait trop plaisir. Et bah voilà, nous aussi, donc on va partir avec notre petit bébé en France bientôt pendant les vacances. Qu'est-ce que je raconte? Je sais plus où j'en suis. Merci beaucoup, à très vite. C'est le dernier épisode ou pas? Je fais comme si c'était le dernier épisode pour les défaites et on verra si on coupe ou pas.
Allez!
Bonne fête, voilà,
bonne
on
fête
se retrouve
à tous.
Après les vacances parce que la petite pause pour Noël. Ou peut-être pas, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Merci beaucoup,
bisous.
Patrick. À
Merci
très
à vous.
Vite. Hop là.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.